qui nous parlera du retour des projets de loi sur la fin de vie au Sénat, suivi de l'invité de la matinale. Aujourd'hui, un homme qui a été aux avant-postes de la diplomatie mondiale, ancien ambassadeur de France à Washington, conseiller diplomatique du président, autrement dit Sherpa, Philippe Etienne, qui publie Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire chez Talendier. Et à la une, voilà un an que Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche. Depuis, le président républicain a bouleversé la politique américaine et l'ordre du monde.
En à peine un an de ce second mandat, Donald Trump est monté sur tous les fronts. Commerce, budget, immigration, guerre en Ukraine, à Gaza, il a même exfiltré le président du Venezuela. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour.
Alors une manière brusque d'aborder tous les sujets, c'est un peu sa marque de fabrique. De quoi contrarier des Français qui ne voient plus forcément les États-Unis comme notre allié historique outre-Atlantique.
Et plus de 4 Français sur 10 voient même les États-Unis comme un pays ennemi, contre 3 sur 10 en avril dernier, quelques mois après l'investiture de Donald Trump. C'est ce que révèle un sondage IFOP publié ce matin. Une menace militaire pour la France, c'est ce que Washington va représenter dans les prochaines années, selon une majorité de personnes interrogées, 51%, une opinion qu'on retrouve en particulier chez les moins de 35 ans. Dans cette enquête, les États-Unis sont classés 5e pays le plus menaçant pour la France, après la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Sondage qui se penche aussi sur le Groenland. 4 personnes sur 10 se disent favorables à une intervention militaire de la France et des autres pays européens en cas d'annexion du territoire autonome danois par Washington. 2/3, toujours dans le cas d'une annexion, sont pour un boycott des produits américains et une suspension des achats de matériel militaire aux États-Unis.
Et Donald Trump qui affirme que les dirigeants européens ne vont pas résister beaucoup, je cite, à son projet de s'emparer du Groenland. Autre sortie, ce matin, il menace d'imposer désormais 200% de droits de douane sur les vins et les champagnes français après le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son Conseil de la paix. Inacceptable, répond d'ailleurs Paris à l'instant.
Sébastien Lecornu avait promis d'y renoncer, mais face au blocage, il choisit finalement de recourir aujourd'hui au 49-3 pour faire passer son budget.
Le Premier ministre a donné des gages aux socialistes pour éviter la censure tant sur les recettes que sur les dépenses. Mais il l'a répété plusieurs fois ces derniers jours, la loi de finances permettra bien de ramener le déficit à 5% du PIB contre 5,4% l'an passé. Alors comment compte-t-il y arriver, Zoé Pallier ?
Augmenter les recettes et baisser les dépenses, le gouvernement promet d'utiliser ces deux méthodes dans les mêmes proportions. Côté recettes, ce sont surtout les très grandes entreprises qui portent l'effort. La surtaxe sur leurs bénéfices, censée être exceptionnelle, est finalement maintenue. Elle rapportera 8 milliards d'euros et doit servir à financer la défense. Le gouvernement s'engage par ailleurs à réduire les dépenses de l'État. Il veut notamment faire 2 milliards d'euros d'économies sur les agences et opérateurs, des structures comme France Travail ou Météo France par exemple, qui appliquent les politiques publiques. Les ministères devront tenir leur budget, il n'y aura pas de rallonge accordée cette année. Enfin, chaque trimestre, comme l'an dernier, l'exécutif réunira des parlementaires et des experts pour éviter toute dégradation surprise des comptes publics et s'assurer que le déficit ne dépasse effectivement pas les 5% du PIB.
L'actualité politique, c'est également la proposition de loi sur la fin de vie qui est débattue à partir d'aujourd'hui au Sénat, ou la création d'un droit à l'aide à mourir qui devrait cristalliser les discussions dans l'hémicycle, mais aussi en dehors, à l'image de la conférence des responsables de culte en France, qui représente catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes. C'est le fait d'inscrire dans la loi la possibilité de donner la mort qui leur pose un problème, Rémi Pfister.
On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. C'est par ces mots que le cardinal Jean-Marc Avin, président de la Confédération des évêques de France, a appelé la semaine dernière à une réflexion profonde sur la solidarité dans notre pays. Pour lui, la société doit mieux entourer ceux qui souffrent.
Ce qui fait peur, c'est la souffrance, bien sûr, mais c'est la solitude dans la souffrance. Du reste, dans les soins palliatifs, on voit des gens qui arrivent avec l'idée qu'il faut en finir et qui, par cet accompagnement, la solidarité entre les personnes, voient un autre horizon que celui avec lequel ils étaient arrivés. La présence, l'accompagnement, est le meilleur terreau, le meilleur humus sur lequel peut naître la bonne décision. Parce que chaque cas est unique.
Haïm Korsia, grand rabbin de France, croit également qu'une société grandit plus lorsqu'elle se mobilise pour accompagner les plus fragiles.
Ce n'est pas possible de donner comme seul horizon la mort. Parce que la grande maladie du temps, croyez-moi, c'est la solitude. Qui nous sommes pour dire quelqu'un qui est atteint de la maladie de Charcot, il n'est pas digne de vivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous qui avons un problème avec la faiblesse. Il faut qu'on s'occupe un peu des faibles. Il faut qu'on s'occupe de ceux qui ont une minoration de leur capacité. On soigne la douleur. Personne ne doit souffrir de nos jours.
Les religieux s'interrogent. Comment proposer la mort comme un droit quand l'accès aux soins palliatifs pour soulager la douleur n'est pas garanti pour tous? Encore aujourd'hui, 25 départements en sont dépourvus.
En bref, des milliers d'agriculteurs sont attendus à Strasbourg aujourd'hui pour exprimer leur rejet de l'accord commercial avec le Mercosur et mettre la pression sur les eurodéputés. 6 à 700 tracteurs doivent affluer dès ce matin dans la capitale alsacienne. Et puis attention, l'Hérault et l'Aude sont maintenus ce matin en vigilance orange crue. Les transports scolaires restent suspendus et les manifestations extérieures sont interdites toute la journée d'aujourd'hui. J'ajoute que le Finistère et le Morbihan vont passer en vigilance orange pluie inondation à partir de 4h du matin la nuit prochaine.
Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. Pour lui, une femme doit faire tourner les têtes quand elle entre dans une pièce.
Oui, alors lui, c'est Valentino Garavani, ou simplement Valentino, comme le nom de sa marque. Le prénom qui résume la légende qu'il laisse derrière lui, le grand couturier italien. Valentino est donc mort hier à 93 ans. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
Il a habillé toutes les grandes de ce monde.
Oui, d'Elizabeth Taylor à Ava Gardner, en passant par Sharon Stone, Sophia Loren ou la reine Paola de Belgique. C'est à la fin des années 60 qu'il se fait connaître dans le monde entier. Le mariage de Jackie Kennedy avec l'armateur Aristote Onassis, robe ivoire et dentelle signée Valentino pour l'ex-première dame. Mais c'est une autre couleur qui restera associée au nom du couturier. Le rosso, le rouge qu'il remarque dans le public d'une représentation de Carmen en Espagne alors qu'il est jeune créateur. C'est une couleur tellement belle, elle va à tout le monde, racontait-il. Croyez-moi ou non, mais quand vous allez à une grande soirée ou un cocktail et que toutes les femmes sont en noir, quand deux femmes arrivent qui portent du rouge, vous ressentez un immense bonheur dans votre cœur. Parce qu'elles ont l'air sensationnelles. C'est une couleur très joyeuse. Valentino ne prétendait pas révolutionner la mode, mais rendre ses clientes élégantes. Une vision qu'il fera vivre jusqu'à sa retraite en 2008. À l'annonce de sa mort, hier, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a salué une légende. Et pour l'actrice Gwyneth Paltrow, c'est la fin d'une époque.
Et les funérailles de Valentino se tiendront vendredi à Rome. La dépouille sera exposée à partir de demain.
Merci à tous les deux. À demain, Lénaïque, pour d'autres informations. À suivre, Guillaume Tabar et l'éditorial avec Le Figaro. Le Sénat débat des textes sur la fin de vie. Radio Classique, 8h07.
Chez GMF, être assurément humain, c'est s'engager dans des relations durables. Pour bien démarrer l'année, GMF vous offre 2 mois de cotisation pour la souscription d'un contrat d'assurance auto. Et ce, jusqu'au 31 mars. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr.
Être libre. Libre d'entreprendre, de donner vie à ses projets, d'investir dans ce qui compte. Être libre, c'est aussi dépenser son argent sans se justifier. Bougardier présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 euros. Avec le PLP, votre argent vous obéit enfin. Découvrez le nouveau prêt libre patrimoine sur bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Sophie Lemonnier-Valaise, violoniste et directrice musicale de Voyage d'Exception.
Voyage d'Exception, c'est le spécialiste des croisières musicales. Des voyages uniques, des bateaux haut de gamme et à taille humaine. Des fleuves majestueux, le Danube, le Douro, la Moldau ou encore la Seine. Une ambiance intimiste avec Jean-François Zigel, Philippe Bernold, Laurent Corsia, Dana Ciocarli et d'autres musiciens de renom qui partagent avec vous leur passion pour la musique.
Renseignements et réservations au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Oui, c'est Monsieur Martin. Alors vous me dites que votre comptable est en vacances, ensuite que vous êtes en train de changer de banque et maintenant vous avez perdu ma facture. Est-ce que vous payez ma tête par hasard ?
Sans aucun doute, Monsieur Martin, sans aucun doute. J'en ai bien peur.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2025, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Vous pouvez les aider. En faisant un leg, donnez du sens au combat des chercheurs de l'Institut Imagine, comme le Dr Saunier.
Faire un leg, c'est accélérer la recherche, identifier la cause de la maladie chez les enfants, leur apporter un diagnostic, une meilleure prise en charge et trouver des traitements adaptés.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Delsol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Delsol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Delsol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous éco de la matinale de Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 8h10, l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Juste après, je recevrai Philippe Etienne. Il publie le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. Il a été, entre autres, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron et ambassadeur de France à Washington et aussi en Allemagne. Vous saurez tout dans un instant. Mais pour l'heure, je dis bonjour à Guillaume Tabar.
Bonjour David.
Pendant que l'Assemblée s'apprête à clore l'épisode du budget, enfin, dirais-je, le Sénat, lui, entame son examen des projets de loi sur la fin de vie. Faut-il s'attendre à ce que les sénateurs reviennent sur le vote des députés ?
Alors, d'abord, vous avez raison de parler de texte au pluriel sur la fin de vie, puisqu'il y en a un sur les soins palliatifs. Celui-là est consensuel et nécessaire, à condition que les moyens budgétaires suivent, et un second qui légalise l'aide à mourir par l'euthanasie ou le suicide assisté. Et c'est sur ce texte qu'on attendait une opposition entre les deux chambres. Les sénateurs, et le premier d'entre eux, Gérard Larcher en tête, s'étant montré inquiet, comme le sont d'ailleurs la plupart des soignants, à l'idée d'assimiler un geste létal à un soin. Eh bien, la semaine dernière, grosse surprise en commission des affaires sociales. Plutôt que s'opposer à l'euthanasie, les sénateurs ont préféré endurcir les conditions d'accès, notamment mécontentant au passage les militants autant que les opposants au droit, je mets droit entre guillemets, à mourir.
Mais alors s'ils déçoivent les deux camps, n'est-ce pas que les sénateurs ont trouvé une position d'équilibre?
Écoutez, un équilibre d'affichage peut toujours être trompeur. Car de quoi s'agit-il à propos de la fin de vie? Il ne s'agit pas, hein, comme pour le budget par exemple, de déplacer quelques curseurs comptables. Il s'agit de répondre à une question vertigineuse. Un geste qui donne la mort à autrui, ou que l'on se donne à soi-même, doit-il être autorisé ou interdit au nom de la dignité humaine? Donc on est bien sur un principe fondamental. Alors c'est vrai que le Sénat durcit les conditions d'accès à ce droit. On passe d'un droit à l'euthanasie à une exception d'euthanasie. Il ne suffirait plus d'être en phase avancée d'une maladie, mais bien en phase terminale. Mais durcir les conditions, on peut prendre la question sous l'angle que l'on veut, cela revient quand même à valider le principe. Le Sénat prétend donc mettre des verrous pour ne pas aller aussi loin que la version votée à l'Assemblée. Mais regardons ce qui s'est passé en Belgique, au Canada ou ailleurs. À chaque fois, on a fait passer l'euthanasie en additionnant des verrous que l'on a ensuite fait méthodiquement sauter.
Comment expliquez-vous cette position inattendue du Sénat ?
Écoutez, que les sénateurs veuillent faire leur travail de législateur, c'est légitime. Que leurs convictions soient plus variées qu'on le disait, c'est la réalité. Ensuite, il y a un penchant naturel du Sénat à chercher le compromis plutôt que l'affrontement. Sur autre chose que sur des principes, ça peut se comprendre. Mais comment ignorer chez certains, tout simplement, la peur de passer pour des ringards, la peur de rater le train de la modernité, la peur d'être regardé comme des vieux réacs, comme le dit une sénatrice LR. Une fois encore, toute conviction est respectable, mais quand on préfère préserver son image plutôt qu'affronter des vents idéologiques dominants, ça n'est jamais très bon signe.
Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Guillaume, merci et à demain. Et maintenant, l'invité de la matinale, ancien ambassadeur de France en Allemagne, ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron avant de rejoindre l'ambassade de France à Washington. Il publie Sherpa aux éditions Talendier. Et si quelqu'un peut nous dire où Donald Trump emmène les relations internationales un an après son retour à la Maison-Blanche, c'est bien ce grand serviteur de la France. Philippe Etienne, bonjour.
Bonjour.
J'ai omis en vous présentant, vous avez un CV long comme le bras, mais j'ai oublié quelque chose d'important, puisque vous avez présidé les commémorations du 80e anniversaire de la libération de la France en 2024 et 2025. En clair, il a été question à cette occasion de célébrer les alliés les alliés de toute une époque, d'une époque où les Américains nous protégeaient. Et vous avez été dans cette, si j'ose dire, nostalgie et en même temps confronté au rôle des États-Unis qui ont bien changé depuis 1945. Est-ce que vous avez le vertige, Philippe Étienne ?
Alors, nostalgie, quand on parle des événements il y a 80 ans, pas seulement, parce que à l'époque, c'est notre libération, mais c'est aussi la restauration de notre démocratie, de notre république. Ce sont des enjeux qu'on retrouve aujourd'hui. Et on les retrouve à la fois au plan intérieur, à cause de l'état de notre société et de nos démocraties occidentales, mais aussi, effectivement, au plan international. Et rencontrer ces vétérans américains, comme on dit, ces personnes de plus de 100 ans qui sont encore là, et me dire qu'ils ont libéré la France avec nos résistants, avec d'autres, c'était très impressionnant, effectivement. Et cela montre dans la durée ce que représente cette relation transatlantique. Mais vous avez raison, il y a la durée, il y a les choses qu'on aimerait préserver, et puis il y a ce qui se passe en ce moment. Et ce qui se passe en ce moment, c'est, je crois, un moment aussi très important pour notre histoire et pour les Européens. Parce que nous sommes devant une réalité qui est que le monde a changé et que nous, les Européens, nous devons davantage nous prendre en charge.
C'est la conclusion de votre livre, d'ailleurs. La conclusion dit « L'Europe a un rôle à jouer ». Et vous êtes optimiste, on y reviendra. Avant cela, ça fait un an que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Et vous parliez du temps long, et je voudrais vous parler de la vitesse. Donald Trump roule en Ferrari. Le Quai d'Orsay français est un paquebot avec une politique qui s'inscrit dans le temps long, parce qu'on ne construit rien dans l'immédiateté. N'empêche, Donald Trump impose à la diplomatie un rythme nouveau. Comment cette diplomatie peut-elle s'adapter quand il y a un dossier tous les jours, toutes les heures, l'augmentation des droits de douane aux États-Unis sur le champagne et les vins, 200% décision ou annoncée de Trump aujourd'hui, Conseil de la paix hier, avec l'espèce d'organisation parallèle à l'ONU, la veille, le Groenland, l'avant-veille, le Venezuela. Que peut la diplomatie face à un tel fonceur?
Alors, d'abord, je crois qu'il faut se rendre compte qu'effectivement, qu'il y a là une technique de communication, une technique d'occupation, de saturation. Non seulement on a le président des États-Unis, ce qui n'est pas rien, mais en plus on a quelqu'un qui en effet prend des initiatives, fait des déclarations à toute heure du jour et pour nous de la nuit avec les décalages horaires. Et donc la première chose à faire, et on l'avait déjà ça un peu, mais beaucoup moins bien sûr, avec les tweets du premier mandat, c'est nous de rester sur notre chemin, de regarder les constantes, comme celle que je rappelais tout à l'heure, sur l'importance pour les Européens de se prendre en charge. La deuxième chose à faire, c'est quand même de s'adapter. Alors, je ne suis plus au Quai d'Orsay, donc je vais être d'autant plus à l'aise pour le défendre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais désormais, au niveau de la communication, c'est le sens de votre question, il y a quand même une stratégie de réponse beaucoup plus rapide à l'heure des réseaux sociaux. Il faut s'adapter. Donc, voilà, les deux réponses pour moi, c'est s'adapter, y compris et notamment en communication, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser emporter, mais aussi quand même savoir sur le fond des choses, choisir son cours et y rester.
Alors, vous distinguez la communication de la diplomatie et des faits?
Non, la communication fait partie de la diplomatie.
Elle fait partie de la diplomatie, mais quand on a quelqu'un qui dit, moi je vais récupérer le Groenland, que vous le vouliez ou non, il est dans la communication, oui, dans des intentions fermes, parce que c'est pas un tweet et une réponse à un tweet qui vont l'en empêcher.
Mais bien sûr. Non, bien sûr. Les deux sont liés, encore une fois. La communication dans notre monde, c'est une partie très importante de la diplomatie et de la politique. Et donc, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord évaluer effectivement le sens de ce qui est dit. Le Groenland, je ne veux pas tout ramener à l'expérience que j'ai eue quand j'étais aux États-Unis, mais il parlait déjà du Groenland dans son premier mandat. La différence avec le deuxième mandat, c'est que maintenant, il veut vraiment, le président Trump n'a plus de contraintes dans son entourage. Il est même plutôt encouragé à aller de l'avant par ce nouvel entourage. Et donc, en tout cas par certains. Et donc, il faut que nous prenions au sérieux ce qu'il dit, mais en même temps, que nous évaluions ce qui, dans la manière dont il le dit, relève de la tactique, de l'intimidation et comment on peut arriver à un résultat commun, si on peut arriver à un résultat commun, ou si nous devons, nous aussi, répondre par nos propres instruments. C'est toute la question du débat actuel entre les Européens sur comment répondre aux dernières déclarations très, très fortes, je vais dire, du président Trump.
Philippe Étienne est l'invité de la matinale. Il a été le principal conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Il a été ambassadeur à Washington et à Berlin. La rationalité, la patience, le sang-froid, c'est ce que je vois en face de moi en ce moment. Comment agit-on face à quelqu'un qui n'est pas nécessairement rationnel dans sa prise de décision?
Alors, je dirais aussi la détermination. Mm-hmm. Détermination et la persistance dans ses objectifs. Donc, moi, d'après mon expérience, je crois qu'on réagit en maintenant le dialogue, en expliquant ce qu'on propose nous-mêmes, mais face à ce comportement qui, j'ai utilisé le mot intimidation, le mot coercition n'est pas, dans ce cas, abusif, je crois. Il faut aussi dire calmement ce que l'on est prêt à faire pour se défendre, pour défendre ses intérêts.
Quand le principal argument diplomatique d'un pays, c'est l'augmentation de ses droits de douane, par exemple. On l'a vu ce matin, j'augmente de 200% les taxes sur les vins et spiritueux, ce qui complète ce qui s'est décidé cet été avec des tarifs augmentés de 15%. Est-ce qu'il y a une réponse diplomatique à ça? Une fois que quelqu'un a dit bah, c'est plus de 100%, la diplomatie ou la discussion a-t-elle encore un sens?
Alors d'abord, il faut savoir que les droits de douane, c'est l'arme préférée du président Trump, mais c'est une arme un peu fragile. Elle est fragile à deux égards. Les effets sur l'économie américaine elle-même, parce que même les Américains eux-mêmes peuvent commencer à avoir quelques doutes sur ce que cela veut dire pour eux. Et puis, la solidité juridique, la Cour suprême des États-Unis est en train de regarder et pourrait donner sa décision dans les prochains jours si c'est conforme, si la base juridique prise par le président Trump sur les pouvoirs d'urgence en temps de paix permet de prendre ce genre de mesures. De notre côté, on a vécu ces épisodes de droits douane récemment et lors du premier mandat. Je pense que il faut précisément rester calme, mais aussi dans ce cas-là dire ce que nous ferons. Ce que nous ferons, d'autres pays l'ont fait l'année dernière, l'ont fait avec succès. Ces droits de douane de 200%, ça n'a pas d'autre sens que de fermer le marché, tout simplement. Donc, est-ce que, comme nous l'avions fait d'ailleurs sous le premier mandat, où il y avait des menaces de droits de douane, certaines d'ailleurs mises en œuvre, et des réponses de l'Union européenne, mais à des niveaux plus faibles, nous ne devons pas tout simplement dire, si vous mettez des droits de douane sur ces produits, malheureusement, nous sommes amené à considérer des droits de douane sur tel autre produit ou à utiliser un règlement que nous avons dans nos tiroirs, que nous avons adopté, qui est le règlement anti-coercition. Mais encore une fois, en disant très calmement que ce n'est absolument pas notre intérêt, que nous ne voulons pas le faire et que nous proposons tout simplement d'abord d'en parler.
Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'est le titre de votre livre, Philippe Étienne, monsieur l'ambassadeur de France. Vous y racontez votre quotidien d'ambassadeur en ambassade et puis surtout aux côtés du président de la République. J'aimerais que vous nous placiez en situation ultra confidentielle quand un événement international arrive et que vous êtes consulté par le président de la République. Ça peut être l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça peut être la réception de Vladimir Poutine à Versailles. Vous avez organisé ça au début du mandat d'Emmanuel Macron. Comment ça se passe? Quel niveau d'écoute? Quelle est votre contribution aux décisions prises par le président de la République? Et surtout, qu'avez-vous appris de sa façon d'aborder les relations internationales?
Je pourrais vous citer mes exemples, effectivement, que j'explique en détail dans mon livre. Par exemple, pour en rester à Donald Trump, la manière dont nous avions avec le président de la République, on a décidé de maintenir et même de confirmer l'invitation au 14 juillet 2017. Vous savez, après qu'il ait retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, tout en résistant très fermement et en défendant l'accord de Paris sur le climat, ce qu'à l'époque nous avons fait avec succès. Mais ce qui me revient aussi à l'esprit, c'est l'attaque du dictateur syrien Assad contre sa population, où nous avons dû réagir très vite parce qu'en recevant Vladimir Poutine à Versailles, Emmanuel Macron avait rappelé que les lignes rouges devaient être défendues. Et là, on parlait de cette ligne rouge-là, l'utilisation des armes chimiques contre son propre peuple. Vous vous souvenez ce que les Américains n'avaient pas fait en 2013.
Bien sûr.
Et donc là,
sous Barack Obama.
Oui. Et donc là, nous avons fait. Et nous avons fait. Et ce que, pour répondre à votre question, eh bien, il y a des concertations très, très, très immédiates. Il y a évidemment la réunion de ce qu'on appelle le Conseil de défense, mais il y a surtout, en ce qui me concernait à l'époque, des contacts pris immédiatement avec les autres pays concernés, en l'occurrence à l'époque les États-Unis et le Royaume-Uni, et le déclenchement de l'action.
Comment vous définissez la diplomatie d'Emmanuel Macron? Quelles caractéristiques vous lui donneriez?
C'est quelqu'un qui va au contact en particulier quand on n'est pas d'accord avec un autre dirigeant, et qui prend ce dialogue d'une manière très objective, qui ne cherche pas à montrer une espèce d'un déplaisir de principe de parler à telle ou telle personne. Non, mon interlocuteur représente tel pays, je le respecte pour ça, mais je ne suis pas d'accord, et on va tout de suite instruire le désaccord.
Qu'est-ce qui est le plus simple pour les diplomates du Quai d'Orsay aujourd'hui? Comprendre Poutine ou comprendre Trump?
Alors, je crois que les deux, maintenant, sont assez bien identifiés. Ce qui est peut-être plus difficile à faire avec Donald Trump, dont on comprend bien à la fois les objectifs et la manière de faire, c'est comment il va agir. Et là, quand on parle de l'imprévisibilité de Donald Trump, c'est pas tellement les lignes de fond, c'est pas tellement la méthode ou le style.
On sait ce qu'il veut, mais on sait pas comment.
C'est les décisions qui décident finalement, à court terme, d'annoncer ou les intentions, les moyens de pression. S'agissant de Vladimir Poutine, j'allais dire, hélas, on voit très bien, parce qu'il a souvent dit, répété, qu'il n'avait pas changé ses objectifs, quelle est sa priorité, quel est son objectif, et sa priorité et son objectif en Ukraine en particulier. C'est relativement clair, ça ne veut pas dire qu'après, on aurait pu prévoir tout ce qu'il a fait, bien sûr, mais enfin, le cadre de sa réflexion, de sa stratégie est relativement clair. Il a été présenté par lui-même à plusieurs reprises.
Vous avez évoqué l'Europe, c'est la conclusion de votre livre. Vous dites, moi j'ai confiance en l'Europe. C'est-à-dire qu'on a fait une construction européenne, on a fait de grandes choses, évidemment, la paix pendant 80 ans, mais on peut encore faire. Alors que les Français doutent, là, il y a un sondage qui est paru aujourd'hui, les Français sur la politique étrangère sont très angoissés, ils sont angoissés sur la place de la France dans le monde, ils sont évidemment angoissés parce qu'ils ont le sentiment que désormais l'Amérique est un ennemi, ce qui nous en fait un de plus avec la Russie. Est-ce que vous avez, vous, là, maintenant, Philippe Étienne, les mots pour les rassurer?
Alors, je pense que être angoissé, en tout cas être inquiet dans le contexte actuel, c'est tout à fait compréhensible. Ce que je dis, moi, c'est que, et c'est mon expérience personnelle, ce que je raconte dans ce livre, c'est que j'ai vécu plusieurs crises, certes moins graves, mais à l'époque, on les considérait déjà très très graves. On était parfois au bord du précipice. Par exemple, la crise financière, la crise des dettes souveraines, j'étais le représentant permanent, c'est-à-dire l'ambassadeur de la France à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Et je raconte des jours où on était au bord du précipice. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a, par la nature des choses, parce que nous sommes 27 pays, parce que c'est compliqué, nous mettons forcément un peu de temps à prendre les décisions que nous devons prendre. Et là, nous n'avons plus beaucoup de temps.
C'est notre faiblesse d'être lent.
Les choses s'accélèrent.
C'est notre faiblesse d'être lent. Quand quelqu'un crée un ONU bis du jour au lendemain, nous, on concerte, ça prend des semaines et des semaines.
C'est notre faiblesse et c'est aussi, d'une certaine manière, notre force, parce que nous représentons des pays très différents, c'est vrai, mais additionnés et ensemble, nous représentons quelque chose, pas seulement d'importance sur le plan politique, mais même, j'allais dire, sur le plan civilisationnel.
Philippe Étienne, le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'est paru chez Talendier. Vous étiez au micro de Radio Classique, nous vous remercions de vos éclairages.
Merci.
Monsieur l'ambassadeur de France, c'est important, il y en a très peu, il faut les soigner. Ces grands serviteurs de l'État, à bientôt sur cette antenne, quand vous voudrez. Et merci.
Merci de votre invitation.
À suivre, le rappel des titres, Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gattegnaud, et évidemment nos esprits libres aujourd'hui, Cécile Cornudet et Jean-François Colosimo, Radio Classique, il est 8h29.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent ? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Direct. Suivez nos formations, investissez, épargnez, le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Direct, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Maison Philippe.
Pour la succession, nous avions une myriade d'objets dont nous ne savions que faire.
Nous avons donc fait appel à la Maison Philippe.
Ils se sont déplacés.
Ils ont estimé le prix et ont payé comptant.
Ils ont tout débarrassé. Un vrai soulagement.
Objets chinois, livres, tableaux, sacs à main, montres, bijoux, bibelots, objets en or et en argent, même défectueux. Appelez la Maison Philippe au 06 07 58 23 23. 06 07 58 23 23. Maison Philippe, Antiquité Raspail, Paris 6e.
Distingo Banque, l'épargne en toute simplicité.
À ton tour, et joue ton meilleur coup.
Je l'ai déjà fait.
Ah oui ? Avec ta tour ou ton cavalier ?
Non, j'ai ouvert un livret Distingo Bank avant de venir. Taux boosté, plus une prime de bienvenue, stabilité, vision, sécurité. Tout ce qu'il faut pour pas se faire mater.
Oh, et moi qui pensais avoir l'avantage.
Tu l'avais ? Avant que je joue Distingo. Allez, ressaisis-toi. Va sur distingobank.fr.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundi dans la matinale de Radio Classique.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Voici Charles Bonner pour le rappel des titres à 8h32.
1,49,3 sur le budget cet après-midi sur la partie recette utilisée par Sébastien Lecornu, faute de majorité. Le texte vise un déficit à 5% du PIB grâce à des économies supplémentaires sur les opérateurs de l'État et au prolongement de la taxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Donald Trump menace de taxer à 200% les vins et les champagnes français si Emmanuel Macron refuse de se joindre au Conseil de la paix, cet organe présidé par Donald Trump, concurrent des Nations Unies. Sur le Groenland et l'Ukraine, Emmanuel Macron propose d'organiser un sommet du G7 à Paris jeudi, en invitant en marge les Russes et les Danois. Il l'a proposé à Donald Trump, qui a publié ses messages sur Internet. Et puis les deux textes sur la fin de vie et les soins palliatifs de retour au CNA en séance publique aujourd'hui. Le Sénat, où la majorité est bien plus conservatrice qu'à l'Assemblée nationale. Le Sénat qui va tenter de restreindre le nombre de personnes éligibles.
Charles, merci. À demain pour d'autres infos. Il est 8h32. De voici Hervé Gattegno. Hervé, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse d'aujourd'hui, l'actualité se résume en quelques nombres.
Et surtout un nombre qui tient en trois chiffres, 49,3, l'article invoqué par Sébastien Lecornu pour faire adopter le budget. Il est en première page de presque tous les journaux. Lecornu se résout à ressortir le 49,3, titre Les Échos et Ouest-France, car le Premier ministre avait juré de ne pas y recourir. Avec le retour du 49,3, Lecornu brise sa promesse en échange d'une non-censure du PS, précise Le Monde. De fait, selon Lacroix, les socialistes sont les grands gagnants des choix budgétaires. Un élu socialiste à l'Assemblée le confirme avec enthousiasme en maniant lui-même les nombres. On est 69 députés socialistes et on négocie comme si on était 300. Le Figaro s'en indigne et accuse le gouvernement d'avoir renoué avec le socialisme, avec plus de dépenses et plus d'impôts. Un nombre peut donc en cacher quelques autres. Sous le 49,3, c'est 8 milliards d'euros de taxes sur les très grandes entreprises qui s'annoncent et 25 milliards d'euros de déficit supplémentaire, souligne le journal L'Opinion. Le Parisien cite quant à lui Sébastien Lecornu qui voit dans ce budget une copie qui permet permet au pays d'avancer. Mais si on est au bord du précipice, faut-il vraiment avancer?
Le mot « copie » dans le vocabulaire de la haute fonction publique et de la politique mériterait de longs développements sémantiques. Pour Donald Trump, à la Maison-Blanche, le nombre clé, c'est 12. Voilà 12 mois qu'il est revenu au pouvoir à la tête des États-Unis.
Une année en enfer, résume Libération. Il y a un an, à cette heure-ci, écrit son éditorialiste, on savait que ça allait secouer, mais on n'imaginait pas que ce président aux ressorts infantiles et égotistes irait si vite, si fort, si loin. Les Échos résument cette présidence en 4 chapitres pour 4 tabous brisés par Donald Trump. Premièrement, au lieu d'un consensus national, un climat de guerre civile avec les purges dans l'État fédéral et la chasse aux immigrés clandestins. Deuxièmement, le pouvoir solitaire qui contourne le Congrès et politise l'administration. Troisièmement, l'égoïsme en guise de politique étrangère dont les alliés de l'Amérique font les frais. Quatrièmement, le mépris des règles éthiques que Trump fait voler en éclats au cœur du pouvoir, acceptant des cadeaux intéressés et favorisant la fortune de sa famille par ses décisions. Pour le journal Le Monde, le président américain a imposé la culture de l'impunité.
Pour le groupe Renault, le nombre à retenir est 1 milliard d'euros. C'est un énorme contrat en vue et il ne s'agit pas d'automobile.
Scoop à lire dans le mensuel L'Usine Nouvelle. Renault va fabriquer dans ses usines du Mans et de Cléon en Seine-Maritime des drones militaires à longue portée. L'engin est baptisé Corus. Il mesure 10 mètres de long pour 8 mètres de large. Il pourra atteindre la vitesse de 400 km/h et voler jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Le projet est piloté, si l'on peut dire, par la Direction Générale de l'Armement afin de combler le retard français dans le domaine des munitions téléportées. C'est ainsi que les militaires appellent les drones d'attaque. La Russie produit plusieurs centaines de drones de ce type par mois, précise L'Usine Nouvelle, ce qui permet de frapper des cibles, surtout en Ukraine, pour un prix moins élevé qu'un missile classique. Il s'agit donc de porter des coups, mais à moindre coût, car il faut faire aussi des économies sur les champs de bataille.
Dans Le Parisien aujourd'hui en France, un nombre effarant, celui des fausses dénonciations devant les services de police.
En 2024, 3012 procédures ont été ouvertes à la suite d'enlèvements bidons, d'auto-accusations ou d'agressions imaginaires. Le Parisien cite l'exemple de cette femme qui, il y a quelques semaines à Paris, a cru voir 4 hommes jeter un enfant dans le coffre d'une voiture. En fait, c'est une doudoune qu'elle avait prise pour un garçon et le dossier a été classé. Le problème, c'est que la police doit vérifier chaque signalement ou dénonciation. C'est pourquoi les dénonciations mensongères constituent un délit. Chaque année en France, des milliers de fautifs sont poursuivis par la justice. Le délit est passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Quand des personnes s'accusent elles-mêmes, ça relève le plus souvent de la psychiatrie, explique Le Parisien. Parmi les cas de figure, il y a aussi de vraies victimes qui dénoncent de faux coupables. En 2022, la Cour de révision a annulé la condamnation d'un homme pour le viol d'une adolescente qui était en réalité victime d'un inceste. Selon Le Parisien, c'est seulement le 12e cas d'erreur judiciaire reconnu par la justice depuis le début de la Ve République. C'est peu.
Pour terminer, l'histoire à lire dans Libération d'un tout petit crustacé qui vit dans l'Antarctique et qui est l'enjeu d'une bataille géopolitique.
Il s'appelle le krill. Et pendant que le monde se focalise sur le Groenland, lui agite les eaux du pôle sud. Il ne mesure que quelques centimètres, mais il regorge d'acides gras et de protéines. C'est pourquoi on le pêche pour le réduire en farine et nourrir les poissons d'élevage ou pour fabriquer des compléments alimentaires. Comme ce crustacé miniature et rose, c'est de lui que les saumons qui le mangent tirent leur jolie couleur. Et dans l'océan austral, écrit Libération, le krill est la clé de voûte de la chaîne alimentaire. Le krill est donc presque parfait, sauf qu'il se déplace en essaim de 20 000 individus par mètre cube, concentration idéale pour les baleines qui n'en font qu'une bouchée au sens propre et pour les pêcheurs dont les bateaux usines n'ont qu'à les aspirer. C'est ainsi que l'an dernier, la quantité de krill pêchée dans l'Antarctique a atteint un niveau potentiellement insoutenable pour l'écosystème. Un seuil de pêche annuel de 1% avait été fixé depuis les années 90. 99% de la biomasse de krill est réservée aux besoins alimentaires des cétacés, ce qui est bien suffisant. Mais le seuil a été dépassé l'an dernier et la Chine et la Russie militent pour rehausser les quotas. Sans compter que l'Ukraine fait aussi partie des pêcheurs de krill, ce qui fait pousser des cris à la Russie. Et voilà comment est née la crise du krill. L'article de Libération se lit comme un SOS.
Hervé Gattegno, la revue de presse, vous la retrouvez demain un peu après 8h30. Merci Hervé.
À demain.
À suivre, nos esprits libres aujourd'hui, Jean-François Colosimo et Cécile Cornudet, Radio Classique, 8h39.
Après 50 ans de mariage, ma femme c'était mon repère. Autant vous dire qu'à son décès, j'ai été déboussolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Alors j'ai appelé le 32 urgence décès. Un conseiller PFG m'a orienté et puis s'est occupé de tout.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 32 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 32, un service PFG.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Ah mais pas d'inquiétude, hein, je vais vous payer. Hein. C'est juste que j'attends d'abord d'être payé pour vous payer. Et comme celui qui doit me payer doit d'abord se faire payer par celui qui doit le payer, bah, il faut juste un peu de patience. Mais pas d'inquiétude, hein, ça arrive.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2025, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. cabinet-arc.com et au 01 46 03 0707 01 46 03 0707.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discuss.
Private Discuss, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discuss.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Samedi prochain, retrouvez la chronique « Bleu comme le monde » avec Caroline Forge.
Cette semaine, nous verrons comment la société civile peut se mobiliser pour soutenir des projets scientifiques de protection de l'océan.
Bleu comme le monde, le rendez-vous dédié à la préservation de l'eau sous toutes ses formes, chaque samedi à 8h54 sur Radio Classique.
Bleu comme le monde, avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, et Jean-François Colosimo, essayiste, historien des religions et éditeur. Bienvenue à vous.
Bonjour David.
Bonjour. Ce sera donc le 49-3 pour faire adopter le budget. On dirait que le mode d'administration du médicament est plus important que le médicament lui-même. On en oublie presque ce budget, ce qu'il y a dedans, et qui ne fait pas que des heureux, Cécile.
Non, c'est la double peine. On a beaucoup lâché au Parti Socialiste pour éviter un 49-3. C'était le moment où Sébastien Lecornu disait « on va introduire en France la culture du compromis, je prends cet engagement de lâcher cet outil ». Et à la fin, on a quand même le 49-3. Donc, c'est les deux à la fois. Et c'est, de fait, la parole politique amoindrie, parce qu'il revient sur ce qu'il a dit, mais c'est surtout le fond qu'il faut regarder. C'est vrai que c'est un budget très dépensier, il n'y a pas d'économie. Et à la fin, parce que peut-être on considère que c'est eux qui crient le moins fort, et en tout cas ils ne votent pas de censure, c'est les entreprises qu'on taxe. Donc avec des jeux politiques où on s'est rendu compte que même LR ne défendait pas les entreprises, ils défendent les ménages et ils défendent les retraités. Enfin, on peut faire comme ça le focus sur chaque parti. Le Parti Socialiste a fait la démonstration depuis trois mois que l'impôt est son principal outil. Si vous mettez tout ça additionné, C'est vrai que c'est, disons, loin de ce dont la France aurait besoin pour essayer de redevenir une puissance, puisque c'est quand même par là que ça passe. Or, puissance, tout le monde a ce mot à la bouche, mais personne ne met les moyens derrière.
Jean-François Colosimo, la puissance, c'est de faire un budget qui ne désavantage pas les entreprises au risque de se mettre à dos certaines catégories d'électeurs ?
C'est de revenir au réel. Là, ce à quoi nous assistons, c'est une histoire de France, malheureusement, éternelle et récurrente. C'est
village gaulois.
Oui, c'est la Gaule des tribus.
C'est la Gaule des tribus.
C'est le royaume des ligues. Et c'est la République des partis, enfin. Et tout ça au détriment de quoi ? De la nation, au détriment du pays. Rendez-vous compte, enfin, tous les jours, et vous êtes le premier à nous le dire, n'est-ce pas ? Le monde est plongé dans une forme d'incendie. La planète brûle, les conflits ne cessent de se multiplier, nous sommes agressés partout, en fait, où nous avons des avantages. Pensez à la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas, qui un jour ne sera plus française, parce que à Paris, on n'aura pas cessé de discutailler pour savoir comment, en fait, attirer le vote des retraités.
Elle sera quoi, alors ?
Je ne sais pas ce qu'elle sera. Elle sera en tout cas sous l'influence d'un de ces grands pays du Pacifique. Le Pacifique, c'est le prochain grand bassin mondial, après la Méditerranée, après l'Atlantique. Nous sommes là-bas en position. C'est un avantage énorme. Nous allons le perdre par une négligence totale, étant quand même absorbé, encore une fois, pour savoir qui va emporter le vote des retraités. C'est catastrophique.
Vous
c'est
imaginez
une, c'est
la Chine préemptant la Polynésie française ?
Mais bien entendu.
Ça peut arriver.
Mais bien entendu. De toute façon, ce Pacifique... Je vous rappelle d'ailleurs que les États-Unis, la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont menée dans le Pacifique. Pearl Harbor... Et Hiroshima, n'est-ce pas ? Et après, ils sont venus sur le continent européen. Mais pour eux, le Pacifique, c'est leur centre de gravité. On sait que demain, ils affronteront la Chine. Alors, la Polynésie, elle sera quoi ? Américaine, elle sera chinoise, elle sera sous l'influence des Azéris qui jouent le jeu de la Russie, enfin, etc. On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, personne s'en occupe. De la même façon que personne s'occupe ici, n'est-ce pas, au Palais Bourbon, au Palais Luxembourg, de doter la France d'un véritable budget militaire, alors que nous voyons bien que, ne serait-ce que l'affaire du Groenland, n'est pas, nous sommes menacés de toutes parts. On est dans l'irréalisme le plus absolu. On est chez Uburoi, n'est-ce pas ? Il y a vraiment quelque chose de complètement affligeant. Or, c'est une éternelle histoire française. Il y a toujours des élites pour trahir, n'est-ce pas ? Et moi, je ferai remarquer, et j'ose le faire, et parce que on trouvera que c'est exagéré, ça n'est pas exagéré, comme il est arrivé parfois déjà dans notre histoire, aujourd'hui, ce sont nos compatriotes juifs qui sont à la peine, n'est-ce pas ? Et ça, c'est un signe irrécusable de perte de l'esprit français, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est un signe terrible.
On reparlera de ce que vous appelez clairement l'antisémitisme, mais je voudrais revenir quand même au sursaut français. Éventuellement, est-il possible ? Je vois que nos compatriotes commencent à intégrer l'anxiété diplomatique et des relations, les crises internationales dans leurs préoccupations. Là, il y a un sondage qui est paru aujourd'hui qui dit que nos compatriotes redoutent les relations avec les États-Unis, qu'ils estiment que les États-Unis sont devenus un ennemi. Petit à petit, ça infuse. La question, l'enjeu, la contrainte internationale arrive à l'esprit de nos compatriotes. C'est peut-être comme ça que les politiques changeront ? Cécile Cornudet ?
Peut-être, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé en France depuis l'arrivée de Donald Trump. Il y a une étude qui mesure de quelle personnalité les médias français ont le plus parlé dans le mois écoulé. Traditionnellement, c'est le président de la République. Et depuis quelques mois, c'est Donald Trump. Donald Trump s'est invité dans la conversation des Français, est devenu un personnage politique français. Il n'y a plus d'émissions, heureusement, sur la politique française. Il n'y a que des émissions sur la situation internationale. Et les Français, voilà, commencent à intégrer. Alors qu'on a toujours dit que, en tout cas, dans la décision de vote, toutes les questions internationales ne les intéressaient pas. Là, quelque chose est en train de se passer. Est-ce que pour autant, les Français prennent la mesure du danger, du risque de guerre, de la nécessité capacité, effectivement, comme dit Jean-François, de se réarmer. Est-ce que cette menace-là, ce sentiment de bascule a vraiment percolé? Je ne pense pas encore. Je pense qu'on est encore dans l'autruche, dans on ne veut pas entendre. Hein. Et il y avait le chef d'état-major des armées il y a quelques semaines qui avait dit qu'il faudrait envoyer des troupes et ça avait créé un émoi pas possible. Mais bon, peut-être qu'on est au début d'une prise de conscience.
J'en remarque une chose, Jean-François Colosimo, c'est que circule sur Internet, dans certains milieux, dans certains comptes Twitter, de la part de certaines personnes, cette idée que, j'ai lu ça, les élites veulent la guerre, pas l'homme du peuple. Et là, il y a quelque chose qui sent pas très bon quand même, parce que quand les élites disent il faut affirmer un rapport de force, il faut réaffirmer la place de la France dans le monde, etc., ça passe par un discours non pas belliqueux, mais un discours qui prône la remilitarisation ou l'esprit de défense. Il y a toujours des gens pour accuser les élites d'être des va-t-en-guerre.
Alors, je voudrais qu'on soit précis. Ce ne sont pas les élites, ce sont certaines élites qui pensent la guerre. Ce sont les élites qui sont informées de l'état du monde. À savoir, finalement, quoi l'Élysée, les militaires et les services, n'est-ce pas? Et probablement aussi, parmi vos confrères, ceux qui traitent de l'étranger. Bon, je veux dire, eux sont, je dirais, ils ont le nez collé sur l'évidence. Donc, voilà, les autres élites, est-ce que vous croyez que les députés actuellement se préoccupent du destin demain de la France à l'échelle universelle, où ils s'occupent en fait de leur petite circonscription, pas, et de leur possible réélection ou non réélection? Où sont-ils face aux dangers du monde? Nulle part. Le véritable problème, c'est que la France, c'est quoi quand la France se projette pas à l'échelle du monde, à l'échelle universelle? Qu'est-ce que nous devenons? Enfin, nous devenons un petit pays à la dérive. Quand nous ne rêvons pas grand, nous devenons pire que petit.
Non, ça pose la question de comment on peut faire progresser les esprits. Au moment du Covid, il y avait des médecins sur tous les plateaux pour expliquer le risque, le danger qui arrive. Est-ce qu'il faut arriver à la même situation? Qui peut faire la pédagogie de ce basculement du monde?
Pour l'instant... C'est nous.
Voilà, c'est ça. Vous. On le fait en ce moment.
C'est vous, Jean-François Colosimo. C'est vous, Cécile Cornudet, dans Esprit Libre sur Radio Classique. Pendant qu'on discute sur l'efficacité du gouvernement, la Terre tourne, vous l'avez dit. Un conseil pour la paix pour Gaza, avec une composition étonnante, lancée par Donald Trump. Javier Milei, l'Argentin. Lula, le Brésilien. Orban, le Hongrois. Le roi Abdallah de Jordanie. Giorgia Meloni d'Italie. Quelques autres encore. La France a refusé d'y entrer. Poutine a été convié. Il a réservé sa réponse. Et surprise, Netanyahou n'en veut pas. C'est un conseil de la paix fabriqué de toutes pièces par Trump. Il y a même un droit d'entrée. Il faut payer 1 milliard. C'est un alter ONU. Il y avait les alter vérités. Et maintenant, il y a les alter Nations Unies. Alors, je ne dis pas que les Nations Unies, c'est merveilleux, mais enfin, ça existait.
Oui, enfin, il y a surtout l'idée que, voilà, oui, vous l'avez raison, c'est un peu comme la table de poker, n'est-ce pas? Vous venez, mais il faut la mise de départ. Et vous êtes en quelque sorte conviés dans une forme de consortium qui fait de l'affaire de Gaza, d'ailleurs, une affaire économique selon une illusion constante, en fait, je dirais, de l'Occident, à savoir que l'amélioration des conditions matérielles suffit à gagner la paix des consciences. On a vu exactement le contraire tout au long du XXe siècle, n'est-ce pas? L'agressivité des peuples et leurs revendications montent au fur et à mesure qu'on pense les avoir achetés.
On a même en Europe des régions qui sont riches.
En plus, on ajoute l'insulte, en quelque sorte, à la revendication.
Pour mettre de l'eau à votre moulin, il y a en Europe des régions très riches économiquement, et la richesse économique ne suffit pas, elles revendiquent leur autonomie, voire leur indépendance. Je pense à la Catalogne, je pense aux Flamands en Belgique, et à d'autres.
Et pensez aussi que, évidemment, les exécutants... les terroristes djihadistes qui sont en train de faire péter leur ceinture sont très souvent de pauvres gars, mais les penseurs derrière sont tous des gens qui ont son bac+5, bac+8. C'est un peu ça aussi, l'illusion que l'intelligence suffit à dispenser la barbarie. Or, ce que nous avons appris au XXe siècle, c'est quoi? C'est qu'on pouvait écouter Mozart à midi et torturer à 14h, et que c'est pas contradictoire. En fait, c'est ça le grand échec, n'est-ce pas? Alors, il y a eu un échec par la Bildung, l'éducation, maintenant il y a un échec par le commerce. La commercialisation, on va on va transformer les peuples rebelles en peuples consommateurs et tout va aller bien. Et entre-temps, on aura fait de bonnes affaires. Voilà. Ça, je dirais, c'est véritablement la limite terrible du système Trump.
Cécile Cornudet, pour terminer, je voudrais que vous nous parliez peut-être, je ne vous avais pas prévenu, hein, je suis désolé, mais je suis sûr que vous avez une idée sur la question. Il y a Davos, là. Oui. Il va se passer beaucoup de choses. Oui. Ça va être un lieu de haute politique, de grande formule.
C'est le
formule
Davos ou poète cette année, oui.
Ah, mais il y a Donald Trump. Il y a son opposant numéro un, le gouverneur de Californie, qui va être là-bas, qui est un type assez brillant et assez étonnant. Gavin Newsom, si je n'écorche pas son nom, gouverneur de Californie. Il va y avoir une soixantaine de chefs d'État. Évidemment, le gratin du monde économique. Et Emmanuel Macron va y aller. Et il faut s'attendre à un coup d'éclat du président de la République qui aime bien donner le change à Donald Trump.
Alors, je ne sais pas s'ils vont se croiser, parce que Emmanuel Macron y va aujourd'hui et Donald Trump demain. C'est Frédéric Merz qui a dit que lui essaierait d'avoir un rendez-vous avec Donald Trump. Emmanuel Macron ne l'a pas dit comme ça. Mais oui, ça va être une scène où les rapports sont tellement électriques en ce moment. Vous avez vu que Donald Trump a rendu public un SMS que lui avait envoyé Emmanuel Macron. Ça se joue devant les caméras maintenant, la diplomatie. Je pense pas que ce soit un mieux.
Mes amis, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine après ces discussions passionnantes. Je vous propose de nous quitter en musique avec Rameau, un extrait des Indes Galantes. Et ça s'appelle Les Sauvages. Alors, on ne sait plus trop qui sont les sauvages aujourd'hui. À l'époque, c'était ce qu'on appelait les bons sauvages. Maintenant, les sauvages sont parfois en costard-cravate avec cravate rouge, évidemment. Les Sauvages de Rameau.
Améliorez votre expérience d'écoute de la radio grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et d'informations plus complètes sur la programmation musicale de votre radio. Plongez au cœur de vos programmes préférés en qualité numérique. Une offre de radio enrichie, gratuite et sans connexion Internet. Les radios vous accompagnent en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
Chez GMF, être assurément humain, c'est s'engager dans des relations durables. Pour bien démarrer l'année, GMF vous offre 2 mois de cotisation pour la souscription d'un contrat d'assurance auto. Et ce, jusqu'au 31 mars. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr.
Découvrez une oubliée de la médecine au Théâtre La Reine Blanche. La découvreuse oubliée, c'est Marthe Gauthier, pédiatre française qui a découvert la trisomie 21 en 1959, mais qui a été longtemps invisibilisée.
Marie-Christine Barrault l'incarne dans la pièce d'Elisabeth Bouchot mise en scène par Julie Timmerman et qui raconte son combat pour faire reconnaître sa vérité. Avec aussi Marie Toscan, Mathilda Maliarakis et Mathieu Desfames au Théâtre La Reine Blanche à partir du 22 janvier.
Ça ira, chez Citroën nous on ira. Ça ira, nous ce qu'on veut c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira, des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën.
Offre valable jusqu'au 31 janvier dans le réseau d'agents participants.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
La météo avec vous, mon cher Pierre Pilet. Des averses qui baissent en intensité dans le Roussillon et en Corse.
Mais attention au débordement de cours d'eau. L'Aude et l'Hérault restent en vigilance orange Météo France pour risque de crue. De fortes rafales en Méditerranée, de la pluie en Bretagne. Une nouvelle perturbation arrive par le Finistère. Ailleurs, le temps est calme, souvent nuageux. Les températures maximales, 8 degrés à Reims, 12 à Rennes, 13 à Montpellier.
Merci Pierre. Dans un instant, vous allez retrouver Franck Ferrand pour les grands dossiers de l'histoire. Moi, je vous retrouve dès demain, dès 7h, pour la matinale. N'oubliez pas évidemment la matinale économique avec notre ami Stéphane Pedrazzi. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Classique. Dans 15 secondes, il sera 9h. Les informations, Pierre Pilet.
La France juge inacceptable et inefficace les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français. Réaction de l'entourage d'Emmanuel Macron auprès de l'AFP.